Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler en essayant de doser et en essayant de creuser ce que ça veut dire que finalement se recentrer sur soi. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Bouchra Daraji, bonjour.
Bonjour Lalla.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que Lalla Bouchra.
Ça va très bien. Allah ybarik fik.
Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, dans quelques jours, vous avez...
Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
Marhaba. Alors, dans quelques jours, vous avez la signature de votre livre « Les mille et un cas et si tu te réinventais ». Et comme par hasard, dans « Femmes d'aujourd'hui », on parle très souvent de réinvention et on parle très souvent de changement de parcours parce que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Avant d'arriver à ce livre, Lalla Bouchra, moi, je voudrais savoir si toi, en tant que femme d'aujourd'hui, tu as déjà eu à vivre, justement, un changement ou plusieurs, et lesquels ? Et qu'est-ce qui t'a poussée à écrire ce livre ?
Wow ! Grande question ! Ça commence bien ! La vie, comme tu as dit, c'est un long fleuve, et c'est des changements au quotidien, et il va falloir savoir se réinventer à chaque changement. Si j'ai vécu des changements, oui, en effet, j'en ai vécu beaucoup, puis chaque jour. Et pendant un certain temps de ma vie, j'avais considéré les changements comme difficiles, comme des fois incontournables, comme des fois... peut-être que je ne méritais pas de vivre ça, mais au fait, avec le temps, puis avec toute ma formation en neurosciences, en coaching, en PNL, puis peut-être qu'on en parlera plus tard, j'ai réalisé que tout changement fait partie de la vie et que c'était notre perception du changement qui faisait que ça pouvait devenir une réussite, comme ça pouvait devenir une opportunité pour nous de refaire les choses autrement et de refaire les choses comme on a envie que ça soit.
Alors, on va y aller petit à petit, parce que ça, c'est des grandes phrases, mais derrière se cache une expérience de la vie et d'une femme d'aujourd'hui. Dans Femme d'aujourd'hui, on aime beaucoup creuser et apprendre du concret, en fait, de ce que nos femmes d'aujourd'hui ont vécu. Alors, justement, toi, Lalla Bouchra, dans ta voix, je sens un accent. Un accent d'outre-mer. L'accent du Canada.
Oui, c'est marocco-canadienne. Oui, c'est marocco-canadienne. Ça fait beaucoup plus que 20 ans que je vis au Canada.
OK.
Je fais des allers-retours. Oui, je te laisse poser ta question.
Oui, alors justement, le Canada, est-ce que ça fait partie d'un changement?
Oh que oui. J'allais y arriver justement en parlant de mes changements à moi et comment ça a été perçu. Je suis née à Rabat. J'ai grandi à Rabat dans une famille fratrie de 3 garçons, puis moi, fille unique. Ensuite, j'ai fait mes études de droit à la faculté de droit à Rabat. Ensuite, je me suis mariée. Je suis allée à Casablanca. C'était déjà un changement pour moi. À 80 km, c'était toute une culture, toute une vie, une nouvelle vie pour moi. J'ai eu mes enfants très tôt. J'ai commencé à travailler très tôt aussi. Et c'était aussi des changements pour moi, des nouveautés à découvrir. Ensuite, est-ce que c'était des changements choisis ou pas? C'était souvent, à mon sens, maintenant, après coup, je me dis, est-ce que c'était éclairé ou pas? Je ne pense pas. C'était des changements, des décisions que je prenais à l'époque. Mais éclairé, peut-être pas. Parce qu'au départ, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait « Si c'était à refaire ». Et je me questionnais sur tous mes changements. Est-ce que si, avec l'âge que j'ai maintenant, la maturité, l'expérience, le savoir, j'aurais fait les choses autrement? Peut-être oui, peut-être non. C'est ça vers À un certain moment de ma vie, j'avais décidé de partir au Canada pour des raisons personnelles, pour des raisons qui m'ont attachée à ma famille, au soleil, à mon pays, à mon travail. Je suis partie. Et ça, c'était une décision éclairée. Et avec ma petite famille, mes enfants, mon époux. Puis ça a été un grand changement pour moi, une nouvelle culture, une nouvelle vie, une nouvelle façon de compter que sur moi et de ne dépendre que de moi, plus de ma famille, plus d'une toute une société qui était là à m'observer, à me regarder, à me juger. Et ça m'a fait découvrir des choses sur moi, sur mon parcours. J'ai commencé à me poser les bonnes questions et j'ai redécouvert une autre personne, quoi.
Alors, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que notre culture, en fait, notre mode de fonctionnement à nous en tant que société marocaine, n'a pas laissé d'espace à l'individu que tu étais pour avoir ses propres réflexions. Il a fallu que tu t'éloignes, que tu sois dans un autre environnement pour pouvoir te connecter à toi et à toi seule.
Au fait, on est dans une culture où les choses sont dictées. Hein. C'est pratiquement une société d'hommes en apparence. C'est une société dirigée par les hommes, écrite par les hommes. Je suis née avec 3 garçons. Hein. Donc, c'était les garçons puis moi. Ensuite, je me suis mariée avec un fils unique et 3 sœurs. C'était... toute ma vie, au fait, au Maroc, je pensais que j'étais née pour servir, pour être gentille, pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de mes enfants. Quelque part, je n'existais pas en tant que personne. Il a fallu que je m'éloigne de tout ce monde, de tout cet environnement. Il faut dire que l'environnement a un impact incroyable sur une personne. Des fois, on ne se pose même pas de question, est-ce que c'est la bonne chose que je fais ou est-ce que je suis heureuse? On ne se pose pas cette question. Et à travers toutes les personnes que j'ai accompagnées, puisque je parle de mes 1000 cas, les gens n'ont pas le temps de se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis à la bonne place?
Donc, on n'a pas le temps.
C'était difficile parce que.
Pardon, on n'a pas le temps, mais on n'a pas non plus l'éducation et les outils pour, en fait.
Tout à fait, c'est surtout une histoire d'éducation et d'outils, de se retrouver dans sa bulle et de se dire c'est ma vie, c'est moi qui la contrôle, c'est moi qui la gère, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire ou pas, et pas. Puis le temps aussi joue, parce qu'on est pris dans un engrenage de. Depuis tout enfant, on est sous la coupole des parents. On est obligé de faire des études parce que c'est vers ça qu'on nous oriente. Et puis généralement, on nous oriente vers les études qu'ils veulent eux et pas nous. La société aussi nous oriente vers une façon de choisir son conjoint aussi, de choisir sa vie, de faire les choses comme la société le veut. Puis on se retrouve à avoir des enfants, des fois on ne s'est même pas posé la question pourquoi est-ce qu'on a des enfants, pourquoi est-ce qu'on s'est marié, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce genre de travail, des fois on se retrouve à faire un
job. Tu t'es posé ce genre de questions toi-même?
Au final,
tu t'es posé cette question de pourquoi je me suis mariée, pourquoi j'ai eu des enfants? Avec tout l'amour et l'affection qu'on peut porter à ses proches, bien sûr, aujourd'hui, qui sont là, qu'on les connaît, en fait. Mais est-ce que tu t'es posé cette question?
Quand on se pose la question, ce n'est pas pour remettre en cause ce qu'on a fait. C'est pour se dire que si je n'avais pas fait ça, comment aurait été ma vie? Puis, si j'avais pas épousé cette personne-là, par exemple, ou je m'étais pas mariée à ce moment-là ou de cette façon-là, et surtout si j'avais pas choisi de vivre dans un monde où la culture impose certaines choses. Je reviens souvent à la culture parce qu'elle est très impactante, très envahissante, et c'est difficile de sortir d'un environnement et de dire non, stop, je n'en veux pas, quand on y a toujours vécu, parce qu'on ne se remet pas en cause, on ne se pose pas la question. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas? Donc, on continue à vivre dans un monde, on voit que tout le monde vit de la même façon que nous. J'étais dans un monde où toutes mes connaissances, mes amis, suivaient le même chemin. Puis quand je me suis retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique, de l'océan, j'ai vu d'autres choses, des gens qui n'étaient pas dans le jugement, des gens qui étaient dans leur bulle, des gens qui n'avaient pas besoin d'accepter certaines choses parce qu'il fallait faire plaisir à maman ou à papa ou à la belle famille ou à ses amis. Ils vivaient, ces gens-là vivaient pour eux, parce qu'ils l'ont choisi. Et est-ce que c'est la bonne façon de faire? C'est deux mondes différents, mais il y a peut-être un juste milieu, et c'est ça que j'ai réalisé comme conclusion. Finalement, il y a un juste milieu où on se choisit tout en se faisant respecter dans son environnement et tout en gardant les belles valeurs, les belles choses, et tout en se respectant d'abord et en s'aimant surtout, et sachant que ce que j'ai observé tout au long de mes accompagnements, c'est que les gens n'ont pas le basique. Hein. Un enfant, quand il naît, il a besoin de trois choses importantes. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être sécurisé. Et si je parle de ma propre enfance, est-ce que j'ai été sécurisée? Peut-être pas beaucoup. On nous faisait peur pour dormir, on nous faisait peur de la police, on nous faisait peur de l'école, du médecin. Donc, on n'a pas vraiment été sécurisés. Puis moi, je me rappelle quand mes parents partaient en voyage et que je restais avec ma grand-mère, je m'en rendais compte que le soir que mes parents étaient partis pour une semaine, on ne m'informait pas qu'ils allaient partir, qu'ils allaient revenir. Donc, quelque part, on n'avait pas eu la base pour avoir une personnalité équilibrée, d'être sécurisée tout le temps.
Parce que l'enfant n'était pas considéré comme... L'enfant n'était pas considéré comme un être humain, mais comme un adulte en devenir.
Oui, comme tu as dit, il n'était pas considéré comme un adulte en devenir. Oui. Il était considéré comme un enfant qui ne comprenait pas, qui ne savait pas, ne ressentait pas. Et qui était là et qui devait subir et accepter.
Alors, Laila Bouchara.
Est-ce que j'ai été sécurisée? Non.
Non, c'est ça. Alors, si on devait discuter de ce point, je pense qu'on pourrait lui consacrer à lui seul toute une émission et ça ne serait pas suffisant.
Oh mon Dieu, que chaque point, quand je rédigeais mon livre, à chaque point, je me rendais compte qu'il y avait tellement de cas que j'ai accompagnés qui ont subi certains points psychologiques. Je me disais, je vais commencer par ce livre et puis on verra.
On verra, c'est ça. Les mille et un cas et si tu te réinventais. Alors, pendant que tu accompagnais les gens, est-ce que tu étais en réinvention ou tu avais déjà fait ton processus? Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est lorsque tu étais encore au Maroc, tu étais dans quel domaine d'activité et à quel moment tu t'es orientée vers l'accompagnement, vers l'aide et la compréhension de l'humain?
Au fait, j'ai toujours été dans l'accompagnement, même quand j'étais en activité au Maroc, dans deux grandes entreprises marocaines que je ne citerai pas de nom, je m'occupais des réclamations et des clients importants. Enfin, on appelle ça des clients VIP, et de leurs réclamations. Donc, pendant mes expériences au Maroc, on m'avait envoyé à Paris pour faire une formation sur comment est-ce qu'on écoute les personnes, puis comment est-ce qu'on les accompagne, puis comment est-ce qu'on détecte leurs besoins. Donc, je considère que même au Maroc, depuis très, très longtemps, j'étais toujours dans l'accompagnement, mais dans le cadre d'une entreprise. Ensuite, dans ma deuxième entreprise, j'ai aussi accompagné les salariés dans leur formation, dans leur amélioration, dans les améliorations de processus aussi. Et j'ai toujours été dans l'accompagnement. C'est quand je suis allée à Montréal que ça a vraiment commencé d'accompagner individuellement puis d'être formée là-dessus plus spécifiquement et avec des outils, des techniques, des façons de faire plus scientifiques.
Ton plus grand changement à toi, ça a été quoi?
Mon livre s'appelle « 1001 cas ». Donc, j'ai accompagné plus de 1000 personnes. Et le 1, c'est moi.
OK.
Le 1 cas qui accompagne les 1000 cas, c'est à moi. Le fait d'accompagner, c'est un peu plus de 1000 personnes, hommes, femmes, jeunes, enfants, adultes. Ça m'a fait grandir. Ça m'a transformée profondément. J'ai écouté des histoires et des histoires et des vies et des problèmes et des blocages et des perceptions des fois et des croyances limitantes des fois qui m'ont ramené à moi-même à me poser les bonnes questions. Est-ce que moi-même je suis à la bonne place? Et oui, ça m'a fait grandir. Le 1, d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle de comment est-ce que chaque histoire est venue me chercher. Et m'a donné foi en l'humain et dans sa capacité à évoluer et à surmonter beaucoup de choses, vu que moi-même, j'ai pu les surmonter. Et chaque personne que j'ai accompagnée, chaque cas que j'ai eu devant moi, chaque histoire que j'ai vécue avec mes coachés, mes clients, ou qui sont des fois devenus mes amis, a laissé une trace en moi qui m'a fait grandir, en fait, qui m'a fait découvrir l'humain en tant que tel, et la capacité de l'humain à changer, à se réinventer quand il le veut. Parce que finalement, on est quoi? On est ce qu'on a fait de nous. On est un groupe, une personne à qui on a montré comment faire, on a dit quoi faire, on lui a dicté sa vie pratiquement. On lui a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà comment tu manges, voilà comment tu t'assois, voilà comment tu parles. Et on a grandi avec cet impact-là, ces apprentissages-là. À quel moment de notre vie, si je te pose la question à toi, Yasmine,
oui.
À quel moment de sa vie on s'arrête pour se dire est-ce que c'est c'est la bonne façon de faire? Est-ce que je suis vraiment ça? Tout ce qu'on m'a appris, c'est bon? C'est bon pour moi, c'est intéressant, ça me rend heureux ou heureuse.
J'ai quand même une nuance à apporter dans ce que tu dis, justement quand tu
dis
par rapport à cette question, à quel moment je peux me poser la question. Par exemple, si on met ça sur la chronologie d'une vie, un adolescent se pose 36 000 questions, mais il n'a pas forcément le recul de la vie, les outils pour. Jeune de la vingtaine qui remet en question le système familial, etc. Est-ce qu'il a les outils pour ? Donc moi, je te repose la question. À quel moment a-t-on les outils nécessaires pour se poser cette question ? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis, ce qu'on m'a appris, parce que c'est légitime tout le monde a le droit de se poser cette question. Mais est-ce que on a les outils pour pouvoir répondre à cette question. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'expérience en général qui nous aide à... Voilà. Okay.
Ta question m'inspire deux choses. Un, quand je donne mes formations, les adultes autour de moi me disent « J'aurais aimé apprendre ça à l'école. J'aurais aimé savoir ce que c'est qu'une émotion. » J'aurais aimé savoir comment la gérer. J'aurais aimé savoir qu'il y a des croyances limitantes. J'aurais aimé savoir que mon cerveau me joue des tours. J'aurais aimé savoir que je n'ai 91% de mon cerveau est inconscient et je n'ai que 9% de conscient. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas. On apprend tout ce qui est intellectuel, mais on n'apprend pas tout ce qui est émotionnel et comment nous gérer en tant qu'humain.
C'est vrai.
Maintenant, à quel moment un être, adolescent, adulte ou autre, ou enfant, va prendre conscience? On prend conscience de deux façons. Soit dans la douceur, soit dans la douleur. Dans la douceur, ça veut dire qu'on a eu la chance de comprendre certaines choses, de lire, d'assister à des formations. Et ça, c'est dans la douceur. Puis on prend conscience que il y a quelque chose qu'on appelle émotion et comment voilà la gérer. Et ça, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, soit dans mes coachings, soit dans les formations, prendre conscience de certaines choses et puis les appliquer dans leur vie. Soit dans la douleur, c'est quand on a un gros problème, quand on tombe dans la maladie, quand on perd quelque chose d'important ou quelqu'un d'important, quand on se retrouve en plein marasme de la vie, qu'on apprend dans la douleur et on se dit j'aurais dû, il fallait, je ne vais plus me comporter de cette façon. Donc deux façons de d'apprendre les choses, douceur ou douleur. Et c'est ça que je répète à mes coachs à chaque fois. Vous voulez apprendre dans la douleur ou dans la douceur, ça ne dépend que de vous. Il n'y a que trois façons de le faire. Je sais maintenant, je le sais comment on peut faire. Il faut que je traverse une autre étape, une étape supérieure, qui je vais prendre conscience. Si je continue dans ce sens, qu'est-ce qui va arriver? Puis si je change et je commence à mettre des éléments de changement, puis bien sûr, je les accompagne dans le changement, parce que le changement n'est pas toujours facile. Hein. Il y a la répétition, puis il y a l'accompagnement, puis il y a la douceur aussi, il faut y aller doucement. Et si je ne change pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis une fois qu'ils prennent conscience, et la prise de conscience doit aller à 10 sur 10, parce que si je prends conscience à 2 sur 10, il ne va rien se passer, c'est là que l'accompagnement opère. C'est que de faire prendre conscience à la personne que les changements peuvent apporter des belles choses dans sa vie. Et à partir de là, la personne commence à passer à l'action, ça c'est le troisième niveau, de passer à l'action et de commencer à tester, à essayer des choses dans sa vie, des techniques, des outils, des façons de faire, de faire qu'elle n'a jamais fait auparavant et qu'elle n'a jamais été initiée à ce genre de choses. Donc, quand elle commence à tester pas à pas, petit à petit, elle observe, elle remarque les changements dans sa vie, les améliorations, et son cerveau s'habitue aussi à ces nouvelles choses. Et elle commence aussi à observer que ça lui apporte, ça lui fait du bien. Ça change la perception qu'elle a du monde, ça change la perception des gens sur elle. Qu'elle commence, par exemple, à dire non. Et je leur donne des manières de dire non sans dire non.
Bien sûr, bien sûr. Sans rentrer dans ces détails-là, justement, parce que par rapport aux détails de l'accompagnement, mais quand moi, ce que je veux pas, c'est que quand on entend notre discussion, c'est que les gens se disent « Ok, ben, je vais tout remettre en question et c'est mon droit. » Et c'est, voilà, c'est qu'il faut des outils pour ça. Idéalement, dès l'enfance, qu'on éduque nos enfants à la conscience de soi, à la remise en question positive. En tout cas, Bosha, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Bon courage pour la signature du livre. Et donc, finalement, on est sorti avec cette belle conclusion que ça peut être une belle lecture familiale. Voilà. Merci beaucoup.
Oui, ça peut être une belle lecture. Merci, parce que j'y avais même pas pensé.
Bon, on a trouvé ça ensemble. Bosha Daraji, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.